toutes et à tous. Nous continuons notre adoration avec la lecture de la parole de Dieu. Je vous prie de prendre avec moi Luc, l'évangile de Luc, chapitre 15. Nous allons lire à partir de verset 11 jusqu'à 32. Luc 15. Nous allons lire à partir de verset 11 jusqu'à 32. Mais premièrement, nous allons lire jusqu'à la verset 24, 11 jusqu'à 24. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans le débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays qu'il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Comme mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Il l'est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'une des méthodes employées par Jésus pour communiquer son message était par des paraboles. Une parabole est fondamentalement une histoire terrestre avec un sens céleste. Quand Jésus a commencé à parler en parabole au peuple, ses disciples ont posé la question évidente. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Prenez avec moi Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, c'est là que nous trouvons ces questions. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Matthieu 13, 10. La réponse de Jésus à la question était assez révélatrice. Nous allons lire à partir de verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, ils n'entendent leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne convertissent et que je ne les guérisse. » Le refus du peuple d'entendre le message de Jésus par rapport au royaume de Dieu était la raison pour laquelle Jésus enseignait avec des paraboles. La vérité du royaume de Dieu ont été entendues par eux, mais ils n'ont pas compris. Ce n'était pas parce que Dieu leur cachait la vérité, c'était parce qu'ils ne voulaient pas entendre. Ça peut être vrai pour nous même ce matin. Ils doivent être compris spirituellement. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 12, je vais lire pour vous. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qu'ils ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour eux, qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu par notre propre moyen, par notre chair. On peut comprendre ce que Dieu veut nous enseigner ce matin uniquement par son esprit. En effet, Jésus parlait en parabole des histoires terrestres avec des sens célestes pour que ses disciples comprennent ses enseignements et que les autres seraient sans compréhension. Et dans le même chapitre 13 de Matthieu, verset 12, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quand j'étais petit, j'avais entendu l'histoire de fils prodigue plusieurs fois, mais je pense que c'est le cas de plusieurs d'entre nous, mais jamais sur l'autre fils qui était toujours avec le père dans la parabole. La plupart des gens qui lisaient et étudiaient la parabole du fils prodigue se concentrent entièrement sur le caractère du fils cadet, sa repentance et le pardon du Père. Mais Jésus n'a pas arrêté l'histoire avec le retour du fils prodigue. Mais alors, pourquoi le Seigneur Jésus gâcherait-il la fin merveilleuse de l'histoire en racontant l'histoire du fils aîné? Près de la moitié, nous ne rendons pas compte, mais près de la moitié de l'histoire est sur le fils aîné. L'histoire du fils prodigue ne s'arrête pas avec le fils prodigue, avec son rentrée à la maison. L'histoire raconte l'histoire de deux fils, tous deux alignés du père et agissant contre la volonté de leur père. Jésus veut que nous comparions et que nous voyons le contraste entre les deux. Le fils cadet est perdu. C'est tout à fait évident, n'est-ce pas? Nous le voyons humilier son père, ruiner sa famille, dépenser ses biens avec des prostituées, et nous disons, voilà quelqu'un qui est spirituellement perdu. Mais dans la beauté sublime de cette histoire de repentance et du pardon, nous oublions presque le récit sur le fils aîné. Et exactement ce que Jésus veut nous faire remarquer est que le fils aîné est également perdu. Et comme nous la connaissons, qu'un train peut cacher un autre, nous devrions faire attention quand nous lisons la parole de Dieu. Parfois, une vérité peut cacher une autre vérité. Nous devrions lire attentivement. Nous ne devrions pas compartimenter la parole de Dieu comme le font les mécréants. Ainsi donc, l'histoire du fils prodigue doit être lue et traitée dans son entièreté. Maintenant, nous allons continuer notre lecture à partir de verset 25 de Luc 15. Luc 15, nous allons lire à partir de verset 25 jusqu'à la fin. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé ton père, a tué le veau gras. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et pourquoi parler de ce fils aîné? Dans ce chapitre 15 de l'évangile de Luc, nous trouvons trois paraboles, n'est-ce pas? Le brebis perdu, le drachme perdu et le fils perdu. Nous pouvons comprendre ces paraboles dans la lumière de ce que Jésus avait dit dans la maison de Zachée. Il dit, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. L'histoire du fils perdu ne s'arrête pas au verset 24. L'histoire du fils aîné racontée avec l'histoire du fils perdu nous semble complètement hors contexte. Si Jésus voulait ajouter cette histoire du fils aîné à l'histoire du fils prodigue, c'est qu'il veut nous donner un enseignement par rapport au fils aîné. C'est absolument nécessaire que l'on parle de l'histoire de ce fils aîné. Regardons ensemble à qui Jésus racontait ces paraboles. Regardez les premiers trois versets de ce chapitre, Luc 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. C'est ainsi que Jésus commence à raconter ce parabole de fils, ces trois paraboles, et aussi la parabole de fils prodigue. Il ne pouvait y comprendre le moindre doute, il ne pouvait avoir le moindre doute dans l'esprit de son auditeur que le fils aîné était une illustration des pharisiens et des professeurs de la loi qui ne pouvaient avoir aucun plaisir dans la repentance des pécheurs à cause de leur propre justice de soi. Tandis que Jésus décrivait le fils prodigue, il était probablement dégoûté par ses actions. Il ne souciait pas du tout de son père. Parlant de fils prodigue, il voulait juste son argent. Et il s'est livré à lui-même sans aucune pensée de son père, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se retrouve sans rien près des cochons. Personne d'entre eux voulait s'identifier à lui, bien sûr. Nous inclus. C'est la même attitude que le pharisien a affiché dans une autre parabole, dans Luc 18, qui remercie Dieu qu'il n'est pas comme le collecteur d'impôts, humble, et puis il énumère tous ses mérites religieux. Nous devrions poser la question sur notre état, n'est-ce pas? Bien souvent, on peut être rempli de l'orgueil de notre état spirituel, de notre bonne conduite. Quand le fils aîné, dans l'histoire du fils prodigue, dit à son père, regardez le verset 29, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Les scribes et les pharisiens se disaient probablement, « Voilà quelqu'un avec qui nous pouvons nous identifier, un homme juste. » Mais Jésus voulait qu'il comprenne que le jeune frère n'était pas le seul qui a méprisé son père. Les deux fils ont été perdus et ont été loin de leur père. Les deux fils étaient perdus et ont été loin de leur père. Les deux avaient également besoin d'être retrouvés. Dans cette parabole, nous voyons le père en effet aller chercher le fils aîné. Regardez le verset 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Parlant de fils aîné, hein, son père sortit et le pria d'entrer. Avez-vous remarqué ici que le père sortit de la maison, de sa maison, pour accueillir le fils aîné, comme il a fait pour le fils prodigue? Et parlant de fils prodigue, comme il était, le verset 28, non, le verset 20, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Comme il était encore loin. Mais en tout cas, dans les deux cas, le père, il sortit de sa maison pour faire entrer ses deux fils. Tout comme le berger qui allait après sa brebis perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve, et comme la femme qui a cherché la drachme perdue. Lequel de ces deux hommes a été vraiment perdu? Celui qui était vraiment perdu était celui qui pensait qu'il n'était pas. Celui qui ne reconnaissait même pas son état. Si vous êtes un chrétien évangélique, pensez à ces deux hommes. Lequel de ces deux-là vous ressemblez le plus? Ne dites-vous pas à Dieu, je te remercie Seigneur que je ne suis pas comme les autres, comme un autre. Quand vous commencez à penser ainsi, en fait, vous ressemblez plus aux pharisiens. Et c'est très grave de découvrir que même si vous êtes en Christ, il y a un esprit pharisien au fond de vous. Jésus nous enseigne à travers de cette parabole de sonder nos cœurs pour voir si nous comprenons vraiment l'évangile et si l'évangile a commencé vraiment à transformer nos vies. Ce ne sont pas que des histoires à raconter aux enfants. Souvent, on peut passer au-dessus, disant que je connais bien cette histoire. Le fils aîné, l'histoire du fils prodigue aurait pu se terminer et nous n'aurons jamais eu l'occasion de rencontrer cet homme que le Seigneur Jésus a fait sortir de l'ombre. C'est le fils aîné de cette famille où on remarque la mère n'a jamais été mentionnée, peut-être pour la raison du fait que l'histoire tourne autour du père et de ses deux fils. Le fils sur lequel nous allons parler est le frère aîné. À ce titre, il a droit aux deux tiers de biens de son père. Selon la loi de Moïse, on peut lire Deutéronome 21:17. Depuis que son jeune frère a déjà reçu sa part, les deux sont reçus leur part. Depuis que son jeune frère a déjà reçu sa part de l'héritage, tout appartient à cet homme. Quand son père mourra, non seulement il recevra les biens de son père, mais il deviendra aussi le chef de la famille. Ça, c'est la tradition dans la communauté, dans le Moyen-Orient. Beaucoup a été donné à ce jeune homme déjà, et sur le chemin, il a été béni en effet. Mais malheureusement, cet homme, on trouve qu'il était complètement ignorant de toutes ses bénédictions d'être avec son père. Alors que son jeune frère était dans un pays lointain, en train de gaspiller sa vie, son frère aîné est resté à la maison en s'occupant des affaires de la famille. C'est une bonne chose. À ce stade dans l'histoire, nous ne savons pas qu'il y a un problème dans la vie de ce jeune homme, le frère aîné. De chaque apparence extérieure, il est en bonne communion avec son père et tout va bien. Mais rappelez-vous qu'il est une image des pharisiens, scribes et l'élite religieuse à qui Jésus parle. Ce sont des gens qui étaient aussi dans une position privilégiée. Après tout, il avait reçu la loi et la révélation de la venue du Messie. Il avait reçu la révélation de la vérité et toutes les apparences extérieures. Et de toutes les apparences extérieures, il marchait dans cette vérité, parlant de pharisiens, de scribes et des autres élites religieuses. Il avait une image devant les hommes, mais il y avait un problème dans leur cœur. En fait, ils étaient perdus dans leur péché et le Seigneur Jésus le savait. La même chose pourrait être vraie pour certaines parmi nous ce matin. Vous êtes une bonne personne avec des bons principes moraux. Vous venez régulièrement à l'église. Vous assistez à toutes les réunions. vous n'avez pas de mauvaises habitudes, vous ne volez pas, vous ne trichez pas dans votre vie, vous payez vos impôts au gouvernement, vous avez même passé par des eaux de baptême et vous êtes membre d'une église. De toute apparence extérieure, vous êtes aussi bon que n'importe qui autour de vous. Mais tout comme Jésus pouvait regarder dans le cœur de pharisien et voir son état perdu, il peut regarder dans votre cœur et voir que vous êtes perdu aussi. Voyez-vous, on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. Vous pouvez être bon, moral et actif dans une église et être perdu en même temps. Vous ne pouvez même pas faire confiance à ce que vous sentez dans votre cœur. Vous savez, Jérémie 17, nous trouvons cette parole. Au-dessus de tout, le cœur de l'homme est le plus mauvais et tordu. Comment on peut croire à notre cœur? Comment on peut dépendre? Le cœur peut vous dire que vous êtes quelqu'un de bon. Mais comment croire notre cœur? Ici, je n'essaie pas de faire douter quelqu'un de leur salut. Non, ce n'est pas la question ici. J'essaie simplement de souligner la vérité que la religion n'égale pas le salut. Vous pouvez être religieux, mais de ne pas être sauvé. Quand ce frère aîné comprend la raison de célébration dans la maison de son père, il refuse d'entrer chez lui. Son père sort et le supplie de venir et pour les joindre à la célébration. Sa réponse à son père est très révélatrice de son cœur. Regardons ensemble le verset 29 de Luc 15. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Mais ça montre qu'il n'était pas content. Jamais content, peut-être. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, il a écrit aux Romains 8, 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers en Christ. » Les deux sont des enfants de ce Père. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers en Christ. » Mais que nous voulons en plus d'être enfants de notre Père? Cet homme n'est pas réjoui que son frère perdu était rentré à la maison. C'est grave, n'est-ce pas? Son propre frère, le fils de son père, est rentré et il n'était pas content. Il n'a pas pu réjouir avec son père. Cet homme ne cherchait pas de faire ce qui peut plaire à son père. Il n'a pas cherché le plaisir de son père. Il chercha son propre plaisir. Cet homme ne cherchait pas la gloire de son père non plus. Vous savez, quand un enfant de la maison, il quitte la maison, il part très loin pour vivre dans la débauche, la gloire de la famille aussi, ça part, c'est parti. Et le père était humilié. Le père était humilié. Mais quand le fils prodigue, il retourne, le père se réjouit parce que son fils est revenu. Mais cet homme, il ne cherchait pas la gloire de son père. Quand tous ses amis, toute la famille était en réjouissance, ce jeune homme, il n'a pas pu réjouir avec son père. Cet homme n'avait pas l'amour pour son père, ni pour son frère. Mais on demande, mais est-ce qu'il était vraiment dans la famille ou pas? Ou c'était quelqu'un qui était en train de vivre dans la maison, mais pas véritablement dans la famille? Cet homme, on trouve qu'il était plutôt fier de lui-même. Il parle, voici tant d'années que je te sers, je te sers depuis tant d'années. Il était fier de ses actes et sa vie. Cet homme avait une attitude d'un serviteur, pas d'un fils. Il avait une attitude d'un serviteur, pas d'un fils. Il n'a pas servi son père par amour pour le père, mais par désir de s'en servir. Quand il dit « Je te sers », dans les autres versions, c'est marqué « Je travaillais comme un esclave pour toi ». Je pense que dans la langue d'origine, c'est « Je t'ai comme un esclave pour toi ». Mais non, son état actuel, c'était le fils. C'était le fils aîné de cette famille, de son père. Quand nous entendons ce fils aîné parler à son père, nous nous rendons compte qu'il était fier, respectueux, arrogant, défensif et en colère. Il y a évidemment quelque chose qui cloche dans la façon dont il regarde ce qu'il se passe ici. Normalement, il devrait être ravi que son frère soit revenu sain et sauf du pays lointain. Il devrait se réjouir que le père ait reçu à nouveau son fils perdu. Mais malheureusement, tout ce qu'il peut faire, c'est se plaindre. Vous voulez-vous savoir quel est son vrai problème? Regardez ce qu'il dit dans le verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il n'a ni parlé avec son frère ou à son père auparavant. Vous voulez savoir ce qui ne va pas chez lui? Il est jaloux. Ton fils, ton bien, même s'il était physiquement dans la maison de son père, en vérité, il était très loin dans son cœur. Il est aussi loin du père que l'autre fils quand il est parti. C'est ce qui n'allait pas avec les pharisiens. Ils gardaient la lettre de la loi à l'extérieur, mais dans leur cœur, ils aspiraient au péché. Peut-être le fils aîné, il a pensé que moi aussi, j'aurais pu faire les choses comme ça. Et quand je reviens, mon père, il aurait pu jeter une fête. Et pourquoi je devrais ruiner ma vie ici dans la maison de mon père? Ces paroles révèlent l'état de son cœur. Comprenez-vous ce que Jésus dit à ses auditeurs et nous? Le fils aîné est perdu. Le fils aîné, en vérité, est perdu. Le père représente Dieu lui-même et le repas de fête du salut. Enfin, de compte, alors, le plus jeune fils, l'homme immoral, entre et il est sauvé. Mais le fils aîné, le bon fils, refuse d'entrer et il est perdu. Les pharisiens qui écoutaient cette parabole savaient ce que cela signifiait. C'était un renversement complet de tout ce qu'ils croyaient. Et qu'est-ce qui empêche le frère aîné d'être à l'écart avec son père? Regardez les versets 29. « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » L'écartement, c'était l'état de son cœur. Dans le cœur, il était éloigné de son père. Le bon fils n'était pas perdu malgré son bon comportement, mais à cause de son bon comportement. Parce qu'il pensait qu'il était quelqu'un de bien, il était perdu. Ce n'est donc pas son péché qui le tient à l'écart, mais sa justice. Bien sûr que le péché il peut créer un écart entre Dieu et nous, mais notre propre justice est encore plus grave, n'est-ce pas? L'évangile n'est pas la religion. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas de la moralité ni de la de l'immoralité. Pourquoi le fils aîné est-il perdu? Le jeune frère voulait la richesse du père, mais pas le père. Comment a-t-il obtenu ce qu'il voulait? Il a quitté la maison, il a enfreint les règles morales. Mais il devient évident à la fin que le frère aîné voulait aussi le contrôle égoïste de la richesse du père. Il était mécontent de l'utilisation des biens par le père, la robe, l'anneau, le veau. Mais alors que le jeune frère a pris le contrôle en prenant ses affaires et en s'enfuyant, nous voyons que le frère aîné a obtenu le contrôle en restant à la maison d'être très bon. Il sentait que maintenant, il a le droit de dire à son père quoi faire de ses biens parce que lui avait obéi parfaitement. Vous comprenez? Il n'a pas quitté la maison, mais il a gardé tout son héritage. Il voulait garder tout son héritage. Mais l'autre, il a pris ce qu'il devrait appartenir. Il est parti, il a dépensé les revenus. Mais ce frère, il voulait le contrôle sur son père. Il voulait le contrôle absolu sur l'argent et les biens de son père. Et il y a donc deux façons d'être votre propre sauveur et Seigneur. L'une d'elles est de briser toutes les lois de Dieu et d'être mauvais. L'autre est de garder toutes les lois, d'être bon. Si je peux être si bon que Dieu doit répondre à ma prière, me donner une bonne vie et m'amener au ciel, alors dans tout ce que je fais, je peux me demander que Jésus soit mon aide et mon récompenseur. Mais il n'est pas mon sauveur. Je suis alors mon propre sauveur. J'essaie de sauver moi-même. La différence entre, entre une personne religieuse et un vrai chrétien est que la personne religieuse obéit à Dieu pour obtenir le contrôle sur Dieu et les choses de Dieu, mais le chrétien obéit juste à cause de la relation avec son Dieu, pour lui aimer et plaire et se rapprocher de lui. Les comportements de certaines personnes sont comme celles de frères aînés. Ils vont à l'église et obéissent à la parole, mais par attente que Dieu leur doit des choses. On peut penser que je fais tout correctement. Je fais tout ce qu'il faut faire, comme c'est demandé dans la parole. J'obéis Dieu exactement, mais j'attends que Dieu me fasse le faveur de retour. Ils n'ont jamais compris l'évangile de la Bible. Il y a aussi des autres qui connaissent l'évangile de salut par grâce, par le cerveau, mais continuent d'avoir cette attitude de frère aîné de cette parabole. Mais il y a certains caractères de cette frère aîné que nous remarquons dans ce passage. Une chose que, regardez le verset 28, dans la deuxième partie, on voit, il se mit en colère. Il se mit en colère. Le frère aîné croit que Dieu leur doit une vie confortable et bonne. Et quand les choses ne vont pas dans le bon sens dans leur vie, ils se fâchent. Parce qu'on pense qu'on est des bons chrétiens, parce qu'on pense qu'on obéit la parole de Dieu, parce qu'on pense que je fais tout ce que je devrais faire. Je vais à l'église, j'assiste toutes les réunions, je prie tous les jours, je lis la parole tous les jours, et je pense que je mérite une vie confortable. Et dès que il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, dès que je devrais passer par des moments difficiles, je me fâche avec Dieu. Je demande si Dieu me punit. Il a vécu une vie sans péché, une vie meilleure que n'importe lesquels d'entre nous. Mais ce type de personne, il oublie Jésus. Il a vécu une vie sans péché, une vie meilleure que n'importe lesquels d'entre nous, mais il a terriblement souffert. Lui, il n'est pas mérité de souffrir. C'est le Fils de Dieu. Mais pourtant, il a tout accompli à la lettre. Mais pourtant, il a souffert. Et une autre chose que nous remarquons sur le caractère de ce fils aîné, il avait une obéissance sans joie et mécanique. Il était obéissant, selon sa parole. Hein. Regardez le verset 29. « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Selon lui, il n'a jamais transgressé les ordres de son père. Les frères aînés obéissent à Dieu comme un moyen d'atteindre une fin, comme un moyen d'obtenir les choses qu'il aime vraiment. Bien sûr, l'obéissance à Dieu est parfois extrêmement difficile, mais les frères aînés trouvent l'obéissance pratiquement toujours une chose sans joie, mécanique, servile en conséquence. Nous devrions poser cette question à pour nous-mêmes. Est-ce que notre obéissance est sans joie? Est-ce que nous obéissons Dieu sans la joie de vivre notre vie chrétienne? Il y a deux façons d'obéir. On peut obéir parce qu'il faut obéir. Mais une autre façon, c'est qu'on devrait obéir pour servir avec la joie. Une autre chose qu'on trouve dans le frère aîné, qu'il a dédaigné son frère. Regardez le verset 30. Il dit, « Et quand ton fils est arrivé, il n'a même pas dit que c'était son frère qui est arrivé, il a dit que quand ton fils est arrivé. » Regardez comment il parlait. « Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Donc il n'y a que d'accusation dans sa parole. Le fils aîné n'avait pas la considération pour son propre frère. Il n'avait aucune considération pour son propre frère. Regardez de quelle manière il parle de son propre frère avec son père. Et le mépris envers son père. Les frères aînés sont trop dédaigneux et méprisants envers les autres. Les frères aînés qui se vantent de leur pureté doctrinale, leur connaissance doctrinale et morale, de leur moralité, se sentent inévitablement supérieurs à ceux qui n'ont pas ces choses. De quelle manière nous sommes meilleurs que des autres? Et parfois, ça peut adresser ton fils, celui qui a gâché ses biens, et ton fils. Et parfois, ça nous arrive que on peut adresser nos propres frères et sœurs en Christ comme celui-là ou celui-ci. On peut utiliser ce terme, mais nous oublions que même dans le moment de colère, est-ce que nous avons le droit d'utiliser ces termes? C'est les enfants de Dieu, c'est nos propres frères et sœurs. Le Seigneur, il a payé autant pour lui que pour toi. Et une autre chose que nous trouvons, il manquait d'assurance de l'amour du Père. Regardez le verset 29. « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Il pose la question sur l'amour de son père. Il était presque tout le temps avec lui, toutes ces années. Certainement, on ne connaît pas l'âge de ce garçon. Il a toujours resté avec le père. Il dit que jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Tant que vous essayez de gagner votre salut en contrôlant Dieu par vos bonnes œuvres, vous ne serez jamais sûr que vous avez été assez bon. Car chaque fois que quelque chose va mal dans votre vie, vous vous demandez si c'était une punition. On pense que si le Père est là, il nous a punis. Non, l'amour du Père ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. Mais ce n'est pas nécessaire que Dieu manifeste son amour par des choses qu'on a... on aimerait bien recevoir. Nous, on a une certaine façon de traduire l'amour de Dieu par les bénédictions que nous pouvons recevoir. Mais la façon dont Dieu montre son amour, c'est lui qui décide. Ce n'est pas vous et moi. Vous ne pouvez pas être sûr que vous êtes repenti assez profondément alors que vous battez sur ce que vous avez fait. Si nous comptons sur nos œuvres, ce que nous avons fait pour Dieu, et on ne peut pas être sûr des choses. Et dernièrement, nous voyons qu'il manque, d'intimité avec son père. Il était toujours avec son père, toutes ces années avec son père, mais il n'avait pas cette communion avec son père. Il n'avait pas cette intimité avec son père. Vous pouvez prier beaucoup pour demander des choses, mais ne pas sentir le cœur de Dieu. Un esprit de jugement impitoyable. Le frère aîné ne veut pas que le père pardonne au jeune frère. Il n'a pas pu réjouir avec le pardon que le père il a pu accorder à son fils, à son propre frère. Il est impossible de pardonner quelqu'un si vous pensez, je ne ferai jamais de quelque chose d'aussi mauvais. Ça nous arrive de dire les choses comme ça, n'est-ce pas? Si quelqu'un nous fait mal, moi, j'aurais jamais réagi comme ça. Moi, j'aurais jamais fait une telle chose pareille. Mais si on pense comme cela, comment c'est possible qu'on pardonne la personne? Non, on est tous capables de faire des choses, les gens ils commettent. Le pire des choses. Jésus termine la parabole par l'état misérable de ce frère aîné, afin de faire passer le point qu'il s'agit d'une condition spirituelle plus dangereuse. Le fils prodigue savait qu'il était éloigné du Père, mais le frère aîné ne le savait pas. Le fils aîné, il était conscient qu'il était, parti loin. Il était dans un pays étranger. Il était dans un état misérable. Il était conscient de son état misérable. Mais ce qui est misérable, c'est le frère aîné de cette parabole. Il ne savait pas, il ne reconnaissait pas qu'il était perdu. Mais en fait, c'est lui qui était perdu. La religion moraliste fonctionne sur le principe « J'obéis, donc Dieu m'accepte. » « J'obéis Dieu, donc Dieu m'accepte. » L'évangile fonctionne sur le principe « Je suis accepté par Dieu, par Jésus-Christ, et c'est pourquoi j'obéis. » C'est pourquoi j'obéis. Ce sont deux choses complètement différentes et même opposées. Pourtant, ces deux types de personnes s'assoient ensemble dans l'Église. Tous deux prient, tous deux obéissent à la loi de Dieu, mais pour les raisons radicalement différentes. Avez-vous déjà remarqué qu'il s'agit d'une histoire sans conclusion? Regardez les versets 32. L'histoire, il n'y a pas une conclusion à cette parabole. Hein? Le verset 32, « Mais il fallait bien s'égayer le père. Hein? » On peut lire à partir du verset 31. « Mon enfant lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Si on m'a demandé, est-ce que le frère aîné est entré dans la réjouissance de son père? Je ne sais pas. Parce qu'il ne voulait pas entrer dans la maison. Il ne voulait pas entrer dans la réjouissance de son père. On ne le sait pas. Je pense que Jésus l'a laissé de cette façon pour une raison. pour que chacun doit écrire sa propre fin à cette histoire. Pour que chacun peut écrire sa propre fin à cette histoire. De toute façon, nous tous, on peut s'identifier avec le caractère de fils prodigue et aussi avec le caractère de frère aîné. Je pense que quand on vient vers le Seigneur pour la première fois, on vient comme le fils prodigue. Et après, une fois qu'on est assis dans le banc de l'église, on devient chrétien évangélique, dans notre cœur peut se développer cette attitude de fils aîné. Mais nous devrions faire très attention que nous n'avons pas cette mépris, dédaignement envers nos frères et sœurs, et de ne pas pouvoir réjouir avec le Seigneur quand il retrouve le perdu. Et sentir le battement de son cœur pour sauver les perdus. Mais le Seigneur, il nous a laissé cette belle parabole pour que nous pouvions réfléchir. Ce n'est pas, bien sûr que la parabole, le Seigneur l'a racontée pour des pharisiens, des scribes et des pharisiens. Mais aujourd'hui, si cette parabole est encore vraie pour nous, parce que le cœur de l'homme reste le même, ça ne change pas. Et le Seigneur non plus, il ne change pas. C'est le même Dieu qui veut sauver les perdus. Il laisse les 99 brebis pour aller chercher le brebis perdu. Tel est notre Sauveur. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous voyons combien tu nous aimes. Dans cette soir, Seigneur, nous voyons combien le Père a aimé les deux fils, malgré l'état de leur cœur. Seigneur, tous deux avaient la méchanceté dans leur cœur envers le Père. Tous les deux sont faits mal au cœur de leur Père. Mais pourtant, Seigneur, tu es le même Dieu qui attend à la porte, Seigneur, pour savoir si les fils vont rentrer. Seigneur, nous te remercions pour cette parole qui est vraie depuis toujours, il y a plus de 2000 ans que, Seigneur, cette parabole était racontée et c'est toujours vrai. Et nous tirons toutes les leçons que nous pourrons tirer de ta parole ce matin. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui parle dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à céder nos cœurs pour le voix de l'Esprit Saint qui parle. Seigneur, que nous gardons nos cœurs attentivement de toute chose, de toute souillure de ce monde, de toute chose charnelle. Que Seigneur, toi seul peux régner dans notre cœur. Seigneur, nous prions tout cela en ton bon nom et pour ta seule gloire. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un ici pour la première fois, vous pouvez vous signaler. Je sais que